en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens. Je suis très heureux de venir présenter ce travail devant vous, parce que, effectivement, je pense que ça fait partie des grands débats que la société française doit affronter, et que pour y arriver, elle a besoin de mettre de la raison là où, en général, on met de la passion. Et elle a besoin de mettre de la connaissance là où, en général, on met de l'ignorance. Alors, vous avez évoqué ce travail qui est doublé d'un livre qui va sortir bientôt, le mois prochain, qui s'appelle « L'islam, une religion française ». Mon objectif est double, effectivement. Faire un état des lieux et le faire dans un état d'esprit non seulement universitaire, mais aussi opérationnel. Parce que je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de savoir que sur ce sujet-là, où en général en France, on a tendance à considérer qu'on ne peut rien faire, parce que c'est un sujet étranger, parce qu'on est dans un pays laïque, il y a en fait d'immenses choses à faire. Et la première chose à faire, c'est de comprendre, de faire un état des lieux clair, précis, qui donne des informations, et des informations, on verra, qui a une feuille de route qui, je crois, peut être mise en œuvre. Alors, je vais vous faire une présentation assez rapide. D'abord, un état des lieux global. Qui sont les musulmans de France ? Et quand j'emploie le mot ou l'expression musulman de France, nulle stigmatisation ou affectation religieuse dans ma bouche. C'est juste une façon rapide de dire, de parler des Français de culture et de confession musulmane et des étrangers vivant en France de culture et de confession musulmane. Donc pour aller plus vite, je vais parler des musulmans de France. Je vais faire un point de vue plus approfondi sur l'offre, notamment l'offre de contenu sur Internet, parce que quand vous allez voir l'état des lieux de l'offre, vous allez comprendre en bonne partie la situation. Et puis, des éléments de réponse, notamment sur le financement, sur la construction d'une organisation qui aujourd'hui n'existe pas, des éléments de réponse parce que c'est une bataille idéologique et culturelle, en même temps que religieuse, et puis des éléments de réponse aussi peut-être du côté de l'État, de son rôle, des frontières aussi où il doit s'arrêter, mais des sujets aussi sur lesquels il doit s'engager. Alors, qui sont les musulmans de France ? On a fait une enquête fondée sur une méthodologie que j'espère la plus rigoureuse possible, qui a été débattue mais pas vraiment contestée quand elle est sortie, débattue par des gens qui considéraient qu'on n'avait pas le droit d'interroger des Français sur la base de leur confession, sous prétexte que ce serait une stigmatisation ou un rétrécissement identitaire. Ce à quoi je leur ai répondu qu'il y avait des questionnaires sur les catholiques à peu près tous les 3 mois, sur les comportements politiques et religieux des catholiques, qu'il y en avait peu sur les autres religions pour une raison très simple, c'est qu'en fait ça coûte très cher de faire ce genre d'enquête. Quand on veut avoir un échantillon qui commence à être représentatif, c'est-à-dire qu'il faut au moins 1000 personnes, des catholiques, ce qui ressort de cette enquête et d'autres, c'est qu'on a à peu près la moitié de la population française de plus de 15 ans qui se dit catholique, 40% qui se dit athée, 6% donc qui se dit musulman, 2% protestant et 1% juif. Pour avoir c'est un échantillon représentatif de musulmans, donc 1000 personnes, on a interrogé sur la base d'une méthodologie complètement ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher, on n'a pas questionné plus spécifiquement dans certains quartiers ou dans certains départements parce qu'on savait qu'il y aurait plus de musulmans. Donc on a utilisé des méthodes traditionnelles. Pour avoir 1000 personnes, 6%, il a fallu questionner 15 000 personnes. Et questionner 15 000 personnes, ça demande un petit peu de moyens, ce qui explique que du côté des acteurs privés, ce type d'enquête soit rare ou en fait même inexistante. Et du côté de l'État, l'État a évidemment les moyens, et notamment l'Institut national d'études démographiques, de faire ce genre d'enquête. L'INED a fait avec l'INSEE un gros travail qui s'appelle l'enquête Théo, trajectoire et origine, qui interroge les plusieurs générations de Français d'origine immigrée. Mais l'INED a toujours été, pour des raisons que je qualifierais quand même d'un petit peu idéologiques, extrêmement soucieux de ne pas rentrer sur les sujets religieux. Il y a dans cette enquête 2 ou 3 questions seulement, alors qu'en fait, on peut en faire vraiment beaucoup plus. Donc, 6% de la population de plus de 15 ans, quand on parle de l'ensemble de la population, on est plutôt à 8%. Pourquoi ? Je vais y venir un peu plus tard, parce que les musulmans sont plus jeunes que le reste de la population. Notre élément quantitatif important, on a l'image d'une religion qui submerge la société. La réalité, c'est qu'il y a 2 fois plus de gens qui sortent de la religion musulmane que de personnes qui embrassent la religion musulmane. Et ça, c'était une petite surprise. Ensuite, 3e élément quantitatif très important, ce n'est plus une religion d'étrangers en France. C'est une religion française. Les 3/4 des musulmans de France sont français, soit par acquisition pour 1/4 d'entre eux, soit parce qu'ils sont nés français, pour la moitié d'entre eux. Et comme je vous disais, ils sont plus jeunes que le reste de la population. Ce qui veut dire qu'il va y avoir parmi les musulmans de plus en plus de personnes nées françaises, et qu'il va y avoir aussi de plus en plus de musulmans. Il y a une enquête très récente qui est sortie la semaine dernière du Pew Research Center, qui est un think tank américain, qui a exactement le même chiffre que celui-là, c'est-à-dire sur l'ensemble de la population 8%, et qui fait des hypothèses en fonction des vagues migratoires. Sachant qu'évidemment, plus il va y avoir d'immigrés qui vont venir de pays musulmans, plus il y aura de musulmans. Mais indépendamment des vagues migratoires, la dynamique démographique fait que la part de la population musulmane va s'accroître. Elle va s'accroître parce qu'ils sont plus jeunes et parce qu'ils ont un petit peu plus d'enfants, mais en fait pas beaucoup plus que le reste de la population. Et puis, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Ce qui contredit d'ailleurs, enfin ce qui va avec l'idée que les musulmans sont de plus en plus français, et c'est plus seulement des travailleurs immigrés. Deuxième élément, ce que je vous disais, leur démographie, la segmentation par âge. Alors on a comparé là dans les 2 graphiques la population musulmane et puis la population française. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de personnes de plus de 50 ans et encore moins de plus de 65 ans. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les premiers immigrés sont très largement rentrés au pays. Je vous rappelle que la première vague d'immigration date des années 30, un petit peu sérieuse. C'était des Algériens ou des Franco-Algériens, puisqu'à l'époque, ils étaient français. Et puis, les grandes vagues ont commencé, en gros, avec la reconstruction. Donc, c'est 1952-1953, avec un pic au début des années 60. Et puis le regroupement familial, mais la période du regroupement familial a été marquée plutôt par une baisse de l'immigration que par une augmentation quantitative. Donc il y a des musulmans en France dans le territoire métropolitain depuis maintenant plus de 80 ans. Il y a des musulmans en France hors du territoire métropolitain depuis 1830 et avec 3 départements en Algérie, je crois que ça date de 1865, hein, avant 1870. Donc le fait musulman en France est un fait ancien, mais évidemment il y a une actualité nouvelle avec notamment les chiffres qu'on voit à gauche, donc entre 26 et 49 ans, 55% de la population musulmane. Pour la population française en général, 32%. Et en dessous de 25 ans, 29% des musulmans de France, ce qui correspond au même chiffre pour la population française. Mais la jeunesse de cette population, son dynamisme démographique, lui donne une visibilité dans l'espace médiatique. Un petit point avant de parler de la cartographie, qui est très important. On a l'image... À cause de l'histoire de l'immigration, on a l'image des Français d'origine étrangère, notamment maghrébine, et des Français de confession musulmane ou des étrangers de confession musulmane, comme, en gros, des travailleurs peu qualifiés venus reconstruire la France. Bon. Cette réalité ne correspond plus, enfin, cette image, pardon, ne correspond plus à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une grande divergence sociologique. À l'intérieur de cette composante de la population française, sociologique, parce qu'on voit qu'il y a une bonne partie, un bon tiers, Vous voyez, c'est ceux qui sont Bac plus 2 et plus, qui sont en train, qui ont pris l'ascenseur social, en gros. Et qui, en fait, on ne va pas rentrer dans les détails là sur la diapositive, mais qui, en fait, à niveau social égal, à niveau social d'origine égale, réussissent plutôt mieux que des Français qui ne sont pas d'origine immigrée. Ce qui est assez important, parce que, évidemment, ça change l'image qu'on peut en avoir. Et le discours qu'on a sur la faillite totale du système d'intégration ou du modèle français d'intégration, cette image est juste fausse. Elle est fausse, elle s'explique d'abord parce qu'il y a des échecs, elle s'explique aussi par ce qui, à mon avis, constitue le cœur du modèle français. Le cœur du modèle français, ce n'est pas un modèle d'intégration, à mon avis, c'est un modèle d'assimilation. Et ce n'est pas un choix politique de dire il faut intégrer ou il faut assimiler. Ce n'est pas une politique publique, l'intégration, c'est un fait de la société, c'est une action de la société qui correspond à une histoire, des valeurs, une forme de centralisation. Et du coup, le résultat, c'est que l'échec est criant, parce que c'est une contestation du modèle d'assimilation, mais le succès est silencieux. C'est ce que montre toute l'histoire française de l'immigration. On a oublié que tel ou tel est d'origine espagnole. On a oublié que tel ou tel est d'origine polonaise. On a oublié que tel ou tel est d'origine italienne. Et pourtant, quand ils sont arrivés, dans les décennies qui ont suivi leur arrivée en France, on n'oubliait pas du tout d'où ils venaient. Et ils avaient beau être européens et catholiques, en général, on leur reprochait, par exemple pour les Italiens dans la Provence déchristianisée de la fin du XIXe siècle, on leur reprochait leur catholicité. Les Espagnols ont considéré que c'était des bouffeurs d'huile d'olive. Les Polonais étaient très catholiques, ils étaient beaucoup trop catholiques pour la France de l'Est. Donc ne commettons pas l'erreur, et elle est souvent faite dans le débat public, d'enjoliver les précédentes vagues migratoires d'un côté, et d'oublier de ne pas voir les succès de l'intégration des Français d'origine maghrébine, puisqu'ils représentent, les Maghrébins, les trois quarts des musulmans de France. Il y a 10% qui sont originaires de Turquie, 10% qui sont originaires d'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Donc, il y a une partie qui est en train de s'en sortir. Et plus elle s'en sort, plus elle disparaît, plus sa différence initiale disparaît. Et ça, c'est un grand problème politique, je vais y venir. Il y a une partie intermédiaire qui est plutôt surreprésentée par rapport au reste de la population française. Vous voyez, c'est ceux qui ont le bac 60%, contre 40% pour l'ensemble de la population générale. Eux, ils sont dans une situation ambivalente. Et puis, ce qu'il y a, et c'est l'autre grande caractéristique, c'est que donc il y a plutôt d'un côté un succès légèrement supérieur à conditions sociales égales. Et puis, de l'autre côté, il y a un échec très important, qui se caractérise par non seulement le chômage, mais l'éloignement de l'emploi. On a des gens qui ne sont pas dans la recherche d'emploi. Dans cette catégorie-là, il y a des femmes qui ne travaillent pas, et puis il y a des jeunes décrocheurs, qu'on connaît depuis longtemps. Dans les fameux 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme, il y a beaucoup de jeunes de quartiers populaires, il y a beaucoup de jeunes de confession ou de culture musulmane. Donc le résultat, c'est qu'il y a à l'intérieur de cette composante sociale et religieuse de la société française deux grandes dynamiques qui sont, comme je vous le disais, contradictoires et qui aujourd'hui nous posent des problèmes. Non seulement parce que le nombre de ceux qui échouent est très important, et qu'ils trouvent dans la religion un substitut au projet républicain, voire une raison pour expliquer leur échec, mais aussi parce que ceux qui sont en train de réussir, alors qu'on a besoin d'eux, d'une certaine manière, pour ramener les autres, ils disent, écoutez, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet, et on l'a compris, on l'a vu de façon très explicite au moment des attentats. Quand d'un côté on disait « disparaissez en tant que musulman », c'est ça la République. La religion est une affaire privée, elle n'a pas à voir ou à faire avec l'espace public. Et puis de l'autre côté, on leur disait « mais condamnez les attentats en tant que musulman ». Et là, ils vous disaient « ça s'appelle une injonction contradictoire ». Il y a des psychiatres de Palo Alto qui ont montré que ça rendait fou. Mais surtout, ils ont dit « mais écoutez, non ». Parce que nous sommes dans le cadre républicain, nous n'avons pas à nous exprimer en mettant en avant notre religion dans l'espace public. Je pense qu'il faut dépasser ce débat-là, parce que les attentats ont donné un caractère politique à la question musulmane aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, il y a un long cheminement et cette segmentation sociale explique la difficulté de ce cheminement. Alors quand on interroge les Français sur combien il y a de musulmans en France, en gros, ils vous répondent entre 25 et 30% de la population. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt à, on est à 6% des plus de 15 ans et sur l'ensemble, on est à 7-8%. Comment on explique ce hiatus ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a, comme je vous disais, l'actualité du phénomène religieux. Bon. On parle d'islam à peu près tout le temps au journal de 20 heures depuis, en fait, la fin des années 80. Je ne vais pas faire la liste des crises qui ont embrasé le monde musulman, mais entre l'Algérie, l'Irak deux ou trois fois, la Syrie aujourd'hui, l'Égypte, le phénomène islamiste au Maghreb, etc. Il y a une actualité extrêmement importante internationale. Il y a une actualité nationale aussi. En gros, on a découvert l'islam en France, on a redécouvert l'islam en France en 1989, avec la première affaire du voile, qui était à Creil, deux jeunes filles qui refusent d'enlever leur voile, elles étaient dans un collège. Et puis, il y avait au même moment le début de la guerre civile algérienne et par ailleurs, beaucoup de bouleversements géopolitiques, notamment la chute du mur de Berlin et le départ des Russes d'Afghanistan. Donc, on a eu cette actualité-là et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Par ailleurs, on sait, même si on n'a pas le droit de le dire, que dans nos prisons, notamment dans les prisons de ces régions-là, il y a un nombre de Français d'origine maghrébine et de confession musulmane qui est extrêmement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'actualité de la délinquance, il y a beaucoup de musulmans et du coup, ça se voit. Et puis la troisième raison, elle est géographique. 8% sur l'ensemble du territoire, c'est 8%. Sauf que, vous voyez, alors cette carte, comment elle a été faite ? On a, avec mon équipe, on a aspiré les données de sites qui, pour certains, veillent à l'islamisation de la France. Par exemple, trouvetamosquée.com, que je vous incite à aller visiter. Et puis, de ceux qui sont les vigies de la lutte contre l'islamisation de la France, notamment un certain nombre de sites d'extrême droite, qui publient tous des données très précises sur où est-ce qu'il y a des mosquées. Nouvelle. Donc, on a pris les données de ces différents sites, on les a croisées, parce que ça permet de limiter les erreurs, et puis on les a exportées sur cette carte en recroisant quand même autant que possible avec le ministère de l'Intérieur. Et ça donne cette carte. Cette carte, c'est une carte en fait très simple à lire. C'est la carte de la reconstruction industrielle de la France des années 50. Donc, c'est le Nord, la grande région parisienne, la grande région Rhône-Alpes. La vieille immigration des années 30 dans la vallée de la Moselle, près du Luxembourg, au nord-est, une immigration plus récente en Alsace, avec essentiellement des Marocains et des Turcs qui sont venus plus tard que les Algériens en France, et puis deux endroits, Bordeaux et Toulouse, où il y a, pour diverses raisons, une immigration d'ailleurs qui est souvent marocaine. Bon, plus, évidemment, le grand arc méditerranéen, où il y a eu des vagues migratoires de Nice à Perpignan, là, assez distinctes, beaucoup de Tunisiens à Nice, beaucoup d'Algériens à Marseille, pas mal de Marocains à Perpignan. Donc on a cette carte. C'est 25 départements. Si vous prenez 8% de la population, non pas sur 100 départements, mais sur 25, c'est-à-dire un quart du territoire, d'ailleurs même si on compte en kilomètres carrés, c'est moins d'un quart du territoire, vous allez avoir le sentiment, c'est pas un sentiment, dans cette partie du territoire, il n'y a pas 8%, mais il y a plutôt 15, 20, 25% de musulmans. En Seine-Saint-Denis, parmi les jeunes, il y a différentes enquêtes qui montrent qu'il y a une majorité aujourd'hui de jeunes de moins de 25 ans qui sont musulmans. Mais du coup, ça explique la représentation usuelle du phénomène par la société. Parce qu'on a un phénomène qui est très concentré géographiquement. Du coup, les gens qui vivent dans ces régions se disent il y a beaucoup de musulmans. Puis en plus, on les voit avec le voile, etc. Qui pose un certain nombre de problèmes, soit nouveaux politiques, soit de problèmes de vie quotidienne, notamment de surdélinquance. Et puis, il y a une actualité continue, nationale et internationale, qui fait qu'on arrive à ce sujet de cette représentation de 25-30% de la population musulmane en France, ce qui est évidemment faux. Alors, quand on essaye de comprendre maintenant qui ils sont, ce qu'on voit, c'est des phénomènes assez paradoxaux et en apparence contradictoires. D'abord, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun sentiment d'appartenance des musulmans à une communauté qui serait organisée, constituée. Là où il y a un point commun qui pourrait être dit communautaire, c'est une victimologie assez largement diffusée et d'ailleurs assez largement entretenue par des groupes et notamment des groupes politiques. La victimologie, voire la martyrologie, nous sommes des victimes du monde entier. Nous sommes des victimes de l'Occident, nous sommes des victimes d'un certain nombre de complots, nous sommes des victimes, etc. Et le fait est qu'il y a des discriminations colossales à l'égard des musulmans. On le sait parce qu'on a des enquêtes et notamment des testings sur l'accès à l'emploi avec des dispositifs scientifiques, je crois, assez robustes qui ont comparé pour le même CV, le même nom de famille et juste le prénom qui changeait. En l'occurrence, le nom de famille était Haddad, qui est un nom qui peut être chrétien, juif ou musulman. On a comparé l'accès à l'emploi. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que quand on avait un prénom musulman, on avait 4 ou 5 fois moins de chances d'avoir un entretien. Quand on avait un prénom juif, on avait 2 fois moins de chances d'avoir un entretien. Ne croyons pas que les discriminations à l'égard des juifs ont disparu. Et puis évidemment, quand on avait un prénom chrétien, ben, on était l'élément central de comparaison. Donc, il n'y a pas de communauté au sens où il n'y a pas d'intérêt commun. Par contre, il y a le sentiment assez défensif d'être victime de difficultés, soit de difficultés fantasmées, soit de difficultés qui sont des vraies difficultés réelles. Ensuite, quand il y a des organisations, parce qu'il y a bien des organisations, elles sont soit nationales, soit politiques. Soit nationales parce qu'il y a une identité franco-tunisienne, franco-algérienne, franco-marocaine, franco-turque, très puissante, qui a un lien avec l'islam, à l'évidence. Et puis, il y a des organisations plus ou moins politiques, plus ou moins idéologiques ou théologiques, la galaxie des frères musulmans, et puis ce qu'on appelle le salafisme, qu'on devrait appeler plutôt, si on veut être précis, le Hanbalo-Wahhabisme. Le wahhabisme, c'est l'idéologie saoudienne qui s'appuie, Mohamed Ben Abdel Wahhab est un prédicateur du XVIIIe siècle, qui s'appuie sur un théologien du XIIe siècle qui s'appelait Ibn Hanbal. Donc ça existe, et c'est ça qu'on appelle le communautarisme. Parce que, mais c'est pas un sujet national, c'est un sujet qui est souvent micro-local. On a des communautés organisées, qui s'organisent suivant des codes religieux, une organisation sociale et en fait un système politique qui sont complètement en marge de la société française et pas en marge, qui sont opposés. Ça se voit beaucoup et ça s'incarne par un certain nombre de comportements. Ce qui est intéressant, c'est que les comportements qui ont été diffusés par ces groupes-là, en fait, rayonnent très au-delà de ceux qu'on peut appeler les islamistes. Et ça, on l'a vu dans l'enquête de façon très précise, sur 3 éléments. D'abord, alors que la France est dans une dynamique de sécularisation avancée, je vous rappelle qu'on mesure plus ou moins bien la pratique religieuse, notamment des catholiques, par l'assistance à la messe, on est entre 5 et 10%. Les musulmans, on mesure la pratique religieuse par le respect d'un certain nombre d'interdits alimentaires, par le respect du jeûne de Ramadan. On est entre 2/3 et 75%. Le résultat, il est très simple, c'est que quand vous avez, disons 2/3 de 4,5 millions de personnes qui pratiquent, vous avez 3 millions de pratiquants. Quand vous avez 5% de 33 millions, il y a 66 millions d'habitants en France, c'est la moitié de catholiques, 5% de 33 millions, bah ça fait 1,6 million. Donc il y a plus de musulmans pratiquants en France que de catholiques pratiquants. Ce qui explique aussi la surreprésentation des 30% dont je vous parlais. Mais c'est aussi un élément commun qui est structurant à l'intérieur de cette communauté qui n'existe pas. On a des gens qui pratiquent énormément et qui pratiquent plus aujourd'hui qui a 20 ans, qui a 30 ans, ce qui est évidemment un autre phénomène différenciant avec le reste de la communauté nationale, puisque la pratique religieuse est plutôt en baisse en France. Deuxième élément, le halal. Le halal, c'est quoi ? C'est devenu un mode de vie, c'est pas seulement une pratique alimentaire, une façon de préparer la viande ou de sacrifier la viande. C'est devenu un mode de vie. Il y a la vie qui est halal et puis il y a la vie qui est halal. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il n'y avait pas de viande halal en France. Ça n'existait pas. La norme religieuse existait, évidemment, mais elle était vraiment très minoritaire. Aujourd'hui, dans l'enquête qu'on a faite, on a 80% des musulmans qui disent n'acheter que de la viande halal et qui voudraient aux deux tiers qu'il y ait de la viande halal dans les cantines scolaires. Quand on voit ça, on se dit, bon, ça y est, la France est islamisée, les musulmans sont islamicisés. La réponse, en fait, est plus complexe parce que, comme je vous le dis, c'est le halal et d'ailleurs le voile. On a à peu près les mêmes chiffres pour le voile. Hein. Deux tiers des femmes qui sont favorables à ce que les femmes portent le voile, un tiers qui le portent, et par ailleurs à peu près 0% à l'école. Mais sur ces deux sujets-là, on a une pratique, une vision du monde qui est plutôt une pratique islamiste. On peut discuter longuement, avoir des longs débats théologiques sur le halal, mais le halal n'a rien à voir avec le kasher hein, en termes d'obligations coraniques. Mais cette pratique-là a diffusé très au-delà du consensus ou du noyau dur islamiste. Mais pourquoi c'est intéressant ? Je vais vous voir montrer ensuite la bataille des idées. C'est qu'en fait, ça montre juste que les islamistes sont en train de gagner la bataille des idées à l'intérieur, chez les musulmans, de France d'ailleurs, et d'ailleurs. De France et d'ailleurs. Alors, on a fait une typologie idéologique. Qui a été fabriqué sur la base d'un certain nombre de questions, des questions qui sont des questions religieuses, mais des questions qui sont aussi des questions liées aux valeurs, à l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et on a fait la typologie avec plusieurs types de questions. En fait, on a fait plusieurs typologies. Bon. En gros, et je simplifie, hein, en gros, on a la moitié de la population qui, même si elle est beaucoup plus pratiquante que le reste de la population française, a un système de valeurs, un système de croyances, un système de pratiques qui s'apparente ou, disons, qui s'inscrit dans la dynamique des valeurs de la société française contemporaine. Ensuite, on a un bon quart où on a à l'intérieur de l'échantillon beaucoup de travailleurs immigrés, pour le coup, c'est-à-dire des étrangers, donc des immigrés de première génération. On voit qu'eux, ils ont importé, pour le coup, leur système de valeurs, qui vient essentiellement du Maghreb, de Turquie et puis d'Afrique subsaharienne. Donc avec des gens qui sont beaucoup plus conservateurs que le reste de la population française, mais qui comprennent qu'il y a une limite à l'expression du sentiment religieux. Et puis, on a un dernier quart qui a fait beaucoup parler au moment de l'enquête et que j'analyse longuement dans mon petit livre à venir. Ce dernier quart, bon, 28%, mais vous savez, il y a des marges d'erreur, qui a une caractéristique générationnelle, c'est qu'il est composé énormément de jeunes, parce que la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont dans ce dernier quart. Et cela, il se caractérise par plusieurs éléments, très faible connaissance de la religion, puisqu'on a posé des questions religieuses, utilisation à l'évidence de la religion comme support de rébellion, parce que ce qu'ils vont chercher dans la religion, c'est ce qui permet de s'opposer, au système majoritaire. Et puis, une dynamique propre qui est forte, parce que c'est chez eux que se recrutent les militants de l'islamisme. Ils sont plus jeunes, ils sont en rébellion, ils vivent dans des zones où ils sont assez nombreux parce que très concentrés, et du coup, ils portent un projet, un dynamisme. Alors, comment on explique ? C'est très long et c'est pas forcément l'objet de cette communication. Il y a plein d'explications qui sont connues, identifiées, sur lesquelles je ne vais pas forcément longuement m'appesantir. Je voudrais insister sur trois éléments. La question de l'identité, la question du modèle familial et puis la question du prosélytisme. La question de l'identité, elle est à mon avis vraiment essentielle parce que il faut comprendre que l'islamisme n'est pas une religion, c'est une idéologie. C'est une idéologie politique, comme le communisme a pu être une idéologie politique, qui s'inscrit dans un moment assez précis de la vie de ses citoyens. En gros, on leur dit, et ça concerne plus les deuxièmes, troisièmes générations que les premières, on leur dit, bon, vous devez être français, sauf qu'en fait, vous ne l'êtes pas totalement. dans une autre enquête de l'INED, il y a en gros un tiers des personnes interrogées qui disent souffrir d'un déni de francité. Vous n'êtes pas des Français comme les autres. Je vous donnais les chiffres sur la discrimination dans l'accès à l'emploi, c'est pareil. Donc vous n'êtes pas complètement Français. Mais vous n'êtes pas du tout originaire ou citoyen de votre pays d'origine ou celui de vos parents. Vous n'êtes plus tunisien, algérien, marocain, turc, c'est un petit peu différent. Du coup, qui êtes-vous? La réponse est évidente. Vous êtes musulman. Et vous êtes musulman, et c'est une identité qui est d'autant plus forte que c'est une identité universelle, dans un projet global, qui d'ailleurs en général s'articule avec une identité locale. Quand on interroge, qu'on fait des enquêtes sociologiques, qu'on interroge notamment ces jeunes, ils vous disent « moi je suis musulman et je suis de Sarcelles ». Et d'ailleurs pas de Sarcelles, mais de tel coin de Sarcelles. Donc il y a cette identité locale, familiale, avec une sociabilité très proche, très très grande échelle. Et puis il y a cette identité globale à très petite échelle. Et en fait, il y a une articulation très puissante entre ces deux échelles identitaires. La deuxième chose qui est absolument essentielle, à mon avis, à comprendre, c'est que ça s'inscrit dans un moment très précis du processus d'intégration ou d'assimilation. Ce moment, c'est la désintégration du modèle familial. Monsieur le Président, vous rappeliez que j'avais quelques origines au Maghreb. Je connais assez bien, j'y travaille beaucoup, le monde arabe. Dans le monde arabe, la figure du père n'est pas une figure contestée. Jamais. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pères qui ont été très largement décrédibilisés. Décrédibilisés dans la société par le surchômage des ouvriers. Décrédibilisés dans le système familial. Et ce qu'on voit, en fait, on parle beaucoup de l'absence des femmes de l'espace public. On ne parle jamais de l'absence des pères de l'espace public. Les pères sont à côté. Et ils sont mis à côté, évidemment, par la dynamique sociale, mais aussi par leurs enfants. Les enfants ont honte de leur père. Ils ont honte de leur père parce qu'ils ont compris que les pères n'étaient pas en adéquation avec la société dont les enfants font partie. Les enfants ont honte de leur père et de leurs parents parce qu'ils considèrent que, d'une certaine manière, ils représentent un temps révolu, qui représente le passé, qui ne représente pas l'avenir. Que, du coup, la transmission des valeurs qu'ils vont incarner est biaisée, et d'une certaine manière, ce n'est pas les bonnes valeurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'autorité est décrédibilisée. Et les jeunes dont on parle, ils vont être islamisés. Mais ils ne sont pas islamisés par la famille. C'est ça qui est très frappant. Ils ne sont pas non plus islamisés par la mosquée. Ils sont islamisés par les groupes de copains, par la sociabilité familiale, mais plutôt les frères, les cousins, etc. Et puis, je vais y venir, par Internet. Donc la désintégration du modèle familial, il faut vraiment l'avoir en tête parce que ça explique énormément de choses. Quand le modèle familial explose, il est remplacé par un système d'autorité qui est alternatif et qui en l'occurrence est religieux. Et puis donc c'est la troisième explication, il y a une montée en puissance du discours et du prosélytisme religieux dans l'espace public musulman qui est absolument considérable. Je vais y venir. Avant, un tout petit mot sur les institutions qui sont censées représenter les musulmans de France. Alors, elles sont totalement défectueuses. Bon, pour une raison très simple, c'est que le CFCM ne veut pas exister, et d'une certaine manière ne peut pas exister, et par ailleurs correspond à un âge révolu de l'histoire de l'intégration de l'islam en France. Pourquoi? D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, les musulmans de France sont jeunes. Et ceux qui dirigent le CFCM sont plutôt âgés. Mais surtout, ceux qui dirigent le CFCM sont étrangers. Étrangers à la solde des pays d'origine, le Maroc, l'Algérie et la Turquie, et du coup, représentent et défendent les intérêts des pays d'origine, qui ont bien compris qu'ils avaient un levier politique sur la France, par la religion. Quand l'État a essayé d'organiser l'islam, ça a commencé en 89, c'était Pierre Joxe, il avait pris soin de mettre dans le Corif beaucoup de personnalités qualifiées. qui n'étaient pas des étrangers. Et puis Charles Pasqua, et puis les événements en Algérie, etc. Le souci de la sécurité a été de plus en plus important, et on a cru qu'en mettant en gros les services maghrébins dans l'Organisation de l'Islam de France, on allait pouvoir contrôler la radicalisation des jeunes d'origine maghrébine en France. Double échec parce que on n'y est pas arrivé. Parce que les jeunes, comme je vous le dis, fréquentent assez peu les mosquées, et les jeunes ont bien compris que, en fait, quand ils voient arriver un imam payé par l'Algérie, le Maroc ou la Turquie, qui parle très mal français, qui vient souvent d'un milieu populaire et qui vient se présenter à eux, ils ont très bien compris qu'il n'était pas un interlocuteur valable et qu'à aucun moment ils ne pouvaient avoir envie de l'écouter. Et puis la troisième raison, outre le fait qu'on a importé les querelles entre Algériens et Marocains, c'est que le CFCM est construit comme une pyramide qui va vers une organisation institutionnelle générale. Et sous la pyramide, il y a des mosquées, des fédérations de mosquées, et puis des mosquées grandes ou petites. Le problème du CFCM, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts financiers. Le budget du CFCM est de 30 000 euros. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'en dessous, on ne veut pas l'alimenter. Et pourquoi on ne veut pas l'alimenter ? Parce que les Algériens, les Marocains et les Turcs qui tiennent le système ont intérêt à ce qu'il n'y ait rien au-dessus, tout simplement parce qu'ils veulent continuer à contrôler leur petit marché avec leurs interlocuteurs nationaux. Une mosquée, monsieur le grand rabbin, 30 000 euros. Ah, je vous promets 30 000 euros, et d'ailleurs la Fondation de l'Islam de France vient de mettre 25 000 euros pour éviter la banqueroute du CFCM, ce qui me semble être une très mauvaise idée. Mais en 30 000 euros, de la bouche d'un noir avec Bibèche. Donc il n'y a pas d'intérêt, il y a un conflit d'intérêts financiers, politiques et géopolitiques, qui explique que ça ne marche pas. 9% des Français de confession musulmane trouvent le CFCM représentatif. Alors je vais accélérer. Un tout petit focus sur l'offre idéologique. Bon, on parle d'islam absolument partout, sur les sites grand public, sur les sites d'extrême droite, sur les sites islamistes et religieux, mais aussi sur des sites qui n'ont rien à voir avec l'islam. Notamment jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, c'est un peu l'ancêtre de Facebook. C'est un endroit où on parle de jeux vidéo. Mais en fait, il y a un quart des forums qui concernent la religion, et notamment la religion musulmane. Pourquoi ? Parce que c'est fréquenté par des jeunes. Et l'islam travaille la jeunesse française. Ensuite, quand on regarde la muslimosphère, c'est tous les sites en français qui parlent d'islam. Premier site, c'est des sites de rencontres. Même s'il y a une dynamique de métissage qui est très forte, il y a un marché pour la matrimonialité musulmane. Ensuite, il y a quelques portails, et puis il y a des sites avec des contenus religieux. Vous voyez, 4 millions de vues par mois pour Sajiddin et Ilm Shari'i, ça ce sont des sites religieux, en fait totalement inconnus. Ils ont juste une caractéristique, c'est qu'ils sont salafistes. Et puis les sites institutionnels, vous voyez, la mosquée de Paris fait 20 fois moins de trafic que les sites salafistes inconnus. Pourquoi cette réalité ? Tout simplement parce qu'il y a d'un côté des militants très engagés, pas forcément très organisés, mais très engagés. Et puis, de l'autre, il n'y a personne. Alors, je ne sais pas si on peut... Est-ce que ça marche ? Non. Bon, ça, c'est la carte des influenceurs musulmans sur Facebook, en français. En gros, et celle-là est un peu simplifiée. En gros, vous avez 50%, entre guillemets, du marché qui est tenu par des prédicateurs wahhabites. Vous avez une autre moitié du marché, le marché étant caractérisé par le nombre de personnes qui suivent ces locuteurs, qui est dans la galaxie, complexe à définir, mais dans la galaxie des frères musulmans, avec soit des pages pour le coup communautaires, soit très rigoristes, soit victimaires. Et puis vous avez tout en haut à droite quelques imams très isolés qui essayent d'avoir une parole en accord avec la religion musulmane et puis, on va dire, la modernité de non seulement la société française, mais du monde d'aujourd'hui. D'un côté, vous avez des militants, de l'autre côté, vous avez personne. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a personne sur le plan idéologique de l'autre côté. Il faut regarder la dernière colonne. La dernière colonne, c'est la majorité silencieuse dont je vous parlais, 47%. Cette majorité silencieuse n'a aucune offre qui lui correspond sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et puis de l'autre côté, vous avez les conservateurs, là ça correspond à peu près, et puis les autoritaires, les fameux 28%, qui sont des militants, qui sont jeunes, qui y croient, ben, eux, ils saturent pratiquement tout l'espace des réseaux sociaux et d'Internet. Pourquoi les silencieux n'ont pas d'offre ? Mais parce que d'une certaine manière, soit, enfin d'abord, ils sont pris dans une vague idéologique absolument considérable, et puis aussi parce qu'ils considèrent qu'ils sont en train de fabriquer leur propre islam. Ce qui est très frappant quand on interroge les uns les autres, c'est que, certes, ils sont très pratiquants, mais chacun va être pratiquant d'une façon un petit peu différente, sur un certain nombre d'éléments qui vont structurer la vie quotidienne, sur le rapport à quelques grands rites de passage, sur le fait de vivre avec d'autres musulmans ou pas. Tout ça est en train de s'inventer à très bas bruit, mais n'est pas du tout articulé, n'est pas du tout organisé. Et du coup, ça laisse de la place, une place énorme aux militants de l'islam et de l'islamisme. Alors ça, c'est juste c'est une analyse des prêches salafistes. Ce n'est pas du tout des prêches qui sont théologiquement complexes. C'est des prêches qui sont faits par des jeunes, pour des jeunes, et qui ne concernent que les sujets des jeunes. De quoi ils parlent ? De sexualité, de consommation, c'est-à-dire de vie quotidienne, de signes de piété, avec une obsession, c'est d'avoir une vie qui est une vie halal. Et puis, énormément d'eschatologie, parce que y a l'idée d'autorité, il y a l'idée des fins dernières, etc., qui fait peur. Et la rhétorique, c'est essentiellement en français, avec quelques mots d'arabe, d'une certaine manière pour donner une touche locale ou une touche de crédibilité religieuse au discours. Il y a des gens qui sont très organisés, on connaît Tariq Ramadan, qui a 2 millions de followers, on connaît moins Rachid Elgey, même si Rachid Elgey, c'était l'imam de Brest, celui qui avait fait des déclarations sur « on va vous transformer en singe et en porc si vous écoutez de la musique ». Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'après 2015, après le Bataclan, il a disparu des écrans de Facebook. Et puis, depuis 6 mois, il a réapparu. Il a réapparu en se présentant plus comme salafiste, mais comme conservateur, et puis il avait 150 000 abonnés, et maintenant il en a 450 000. Il a un vrai dispositif marketing derrière lui. L'autre, Abdelmonaim Boussena, c'est un jeune, né en France, originaire de Roubaix, qui est un récitateur du Coran, qu'il a appris par cœur, ce qui fait partie des morceaux de bravoure de la formation musulmane. Et il est en train de monter en puissance très rapidement dans le paysage de l'islam en français. Il y a un prédicateur converti qui s'appelle Mohamed François qui a 700 000 personnes qui le suivent. Il y a des sites automatiques, notamment qu'on appelle de rappel islam, qui permettent de structurer automatiquement la vie du croyant. Donc à différentes heures de la journée, il y a évidemment le rappel pour la prière, mais il y a des dits du prophète qui sont envoyés, etc. Enfin, il y a toute une logistique qui est presque industrielle pour prendre en charge la vie idéologique des musulmans de France. Et puis il y a des associations. Des associations caritatives, des associations qui ne sont pas forcément religieuses, mais qui ont une capacité d'influence qui est extrêmement importante. Face à ça, face à cette bataille culturelle, la France, on va dire, est absente. D'abord, je vais en parler après, elle a décidé de ne pas apprendre l'arabe aux jeunes français. C'est un débat, on pourra l'avoir dans cette noble maison. Elle a été incapable de former des imams, parce qu'en fait, elle a délégué cette responsabilité aux différentes instances non représentatives et qui n'avaient pas intérêt à le faire, parce que chacun voulait avoir ses imams algériens, marocains ou turcs. Et puis, elle n'a pas vu la montée du phénomène idéologique. Alors, que faire ? Je ne vais pas être, trop long, parce que j'ai passé déjà beaucoup de temps. Je pense qu'on est arrivé, d'une certaine manière, à l'heure de vérité, à un grand moment. Ce grand moment, c'est le passage de relais entre la première génération des musulmans, je laisse de côté l'histoire coloniale, la première génération des musulmans de France qui gère encore très mal la religion. On arrive au moment où la religion musulmane doit être prise en charge par des Français de confession musulmane. Pourquoi des Français ? Pas seulement pour la nationalité, mais parce qu'il faut qu'il y ait des gens dont le seul intérêt soit qu'on puisse être français et musulman dans le calme et la paix. et dans le respect des règles de la République, et notamment de la laïcité. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui organisent et qui tiennent encore l'organisation de l'islam. Pourquoi c'est un grand moment ? Parce que c'est un changement de génération. C'est un changement de paradigme. Du coup, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours de bonnes raisons de ne rien changer, même quand on sait que le système dysfonctionne. Pour ça, il y a un début de réforme qui a été mis en œuvre par Bernard Cazeneuve. La création, et c'était, je pense, une bonne idée, de la Fondation pour l'Islam de France, qui reprenait un projet qui avait été lancé par Dominique de Villepin, mais qui avait avorté, qui était la Fondation des œuvres de l'Islam. Pourquoi elle avait avorté ? Parce qu'on l'avait, on avait donné son administration à des gens dont l'intérêt n'était pas qu'elle fonctionne. En l'occurrence, le recteur Boubacar, que je respecte, mais qui, à mon avis, ne défend pas les intérêts de la France. Sauf qu'on a fait que la moitié du chemin. La Fondation, c'est bien. On peut s'interroger quand même sur le fait qu'elle soit présidée par une personnalité éminente, mais non musulmane, Jean-Pierre Chevènement. Mais le vrai sujet, c'est pas la Fondation. Le vrai sujet, c'est l'association, qui est conçue comme adossée à la Fondation, peu importe. Cette association, c'est quoi ? C'est une association de financement. Il y a aujourd'hui beaucoup de consommation liée à l'islam en France. Il y a évidemment tout le marché du halal, qu'on évalue à 5 milliards d'euros. Il y a aussi les pèlerinages. Il y a 25 000 pèlerins qui partent chaque année faire le grand pèlerinage. Il y a 63 000 pèlerins qui font le petit pèlerinage. Et puis, il y a des dons. Il y a une étude britannique qui évalue, pour le seul mois de Ramadan 2016 en Grande-Bretagne, à 120 millions d'euros les dons faits aux charities musulmanes. Il y a plus de musulmans en France qu'en Grande-Bretagne. Alors, ils donnent peut-être un petit peu moins, ils sont peut-être un peu moins riches, mais ils sont quand même nettement plus nombreux. Donc, on peut, à très grands traits, imaginer qu'il y a bien, il y a 3 millions de pratiquants, 50 euros par an, ça fait 150 millions d'euros de dons. Aujourd'hui, où va l'argent ? Personne ne sait. Personne ne sait. L'argent du halal, il va entièrement dans des poches privées. 0 euro à l'organisation de l'islam, comme l'argent du cachère peut aller à l'organisation du judaïsme français. Le pèlerinage, 0 euro. 0 euro pour la communauté. Comment y organiser le pèlerinage ? Le consulat d'Arabie Saoudite donne souvent, d'ailleurs tardivement, des visas à qui ? À des agences de voyage qui sont tenues, contrôlées par des gestionnaires de lieux de culte, des mosquées. Pour une raison simple, c'est que celui qui a la mosquée, celui qui a l'accès aux musulmans. Et le musulman doit passer par le gestionnaire de lieux de culte. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on a comparé le coût du pèlerinage en France et en Allemagne. Il y a 1 000 euros de différence. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, c'est organisé essentiellement par la communauté turque. Et du coup, il y a un lieu centralisé qui distribue le service et l'accès au pèlerinage de façon uniforme. En France, on a décentralisé, mais du coup, on a mis un péage. Parce que ceux qui ont accès au visa, ils ont accès à un bien qui a beaucoup de valeur pour les musulmans, et ils le font surpayer, sous prétexte de services qui sont d'ailleurs souvent rendus avec beaucoup de mauvaise qualité. 1 000 euros pour 25 000 pèlerins par an, ça fait 25 millions d'euros. 25 millions d'euros qui vont dans la poche soit des gestionnaires de lieux de culte par l'intermédiaire des agences de voyage, soit des imams qui se transforment en guides touristiques sur place. Et puis le halal c'est compliqué, c'est un marché extraordinairement opaque, très mal certifié, avec des conflits d'intérêts partout, des conflits sans fin sur les normes religieuses qui organisent le halal. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un très gros marché, d'ailleurs en croissance de 15 ou 20% par an, au dire de Carrefour et de Casino, et que si on prenait 1% du marché du halal, on aurait 50 millions d'euros qui permettrait de structurer la communauté, de former des imams, de salarier des imams, et de salarier des imams notamment. Je passe sur le détail. Ensuite, deuxième sujet, à mon avis essentiel, c'est la bataille de la connaissance. Bon, il faut de l'argent. Si on réussit à mettre de l'argent, et je vous dis, nul besoin de changer la loi de 1905. Nul besoin de changer la loi de 1905. Il y a plein d'argent en France. Mais si on ne mène pas la bataille de la connaissance, on est sûr de perdre la bataille idéologique. Pour ça, il y a plusieurs instruments. Il y a l'enseignement de l'arabe, j'en ai parlé. L'enseignement de l'arabe, en deux mots, c'est 50 000 enfants qui apprennent l'arabe au primaire par les ELCO, 8 000 qui apprennent l'arabe au collège et au lycée, seulement 8 000, et, dit-on, 80 ou 100 000 dans les mosquées. En décidant de fermer les classes d'arabe, puisqu'on a divisé par deux le nombre d'enfants qui apprennent l'arabe, en décidant de fermer les classes d'arabe, en fait, on a envoyé des jeunes Français apprendre l'arabe dans les mosquées, sachant que les parents musulmans, aux deux tiers, veulent que leurs enfants apprennent l'arabe. Et ils sont prêts à ce que ce soit encore majoritairement à l'école plutôt qu'à la mosquée. Même si à la mosquée, on vous explique qu'évidemment, c'est beaucoup mieux à la mosquée qu'à l'école, puisque l'arabe, c'est la langue du Coran, etc. Donc ça, c'est un sujet, c'est un problème politique, parce que quand on aborde ce sujet-là, on dit non au nom de l'assimilation, non au nom de l'histoire de la République française, des Bretons, etc., même si, en fait, c'était plus compliqué en Bretagne. Et puis la première chose qu'on dit, c'est qu'il faudrait mieux qu'ils apprennent le français avant d'apprendre l'arabe. Bon, il ne s'agit pas de remplacer le français par l'arabe. J'ai fait quelques tribunes dans Le Monde, j'avais lu les commentaires. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'enseigner l'arabe en deuxième langue, en quatrième, éventuellement de l'inscrire dans des cursus internationaux, des cursus bilingues, etc. C'est, à mon avis, le meilleur instrument de prévention que l'on ait aujourd'hui. Avec un outil, celui de la République, la connaissance et l'esprit critique. Et on a encore des bons profs. La génération d'après, ils auront été formés dans les mosquées. La deuxième chose, c'est plus technique. Je ne suis pas sûr que le pouvoir politique soit prêt à s'engager sur ce sujet-là. C'est la formation des aumôniers. On a une aumônerie musulmane qui marche très bien à l'armée, où en gros le système est bien organisé, qui est catastrophique dans les prisons, où on a des gens d'ailleurs souvent de très bonne volonté, mais qui sont complètement déphasés par rapport, souvent en fait des travailleurs immigrés à la retraite, qui sont déphasés par rapport aux jeunes qu'il y a dans les prisons. Et puis, il n'y a rien à l'école. Alors, à l'école, en fait, il n'y a rien, sauf qu'en fait, il y a une aumônerie. Elle est devant la grille de l'école. Elle s'appelle le Tablir, les salafistes et les frères musulmans. Et elle est extraordinairement efficace. Donc, mettre en place un système d'aumônerie, le professionnaliser, dans un contexte où il y a un travail intellectuel qui reste à faire et qui reste à mener, qui est un des problèmes d'ailleurs de l'islam de France. Ce travail intellectuel, ce retard intellectuel qui a été pris, il faut en tenir compte. Mais il y a un très gros travail de structuration. Et puis, je passe, deux derniers sujets. Il faut une offre, une contre-offre religieuse sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne des jeunes, pour contrer les islamistes. Cette contre-offre, elle est absolument essentielle. Et d'une certaine manière, elle sera plus facile à produire en France que dans le monde musulman, parce que dans le monde musulman, aujourd'hui, c'est impossible de parler d'islam. Le combat, la bataille a été gagnée par les islamistes. Y compris dans des pays, les pays les plus avancés comme la Tunisie, le débat est interdit. Là où il reste possible, c'est en Europe, et notamment en France, pays où il y a la plus grande communauté musulmane, etc. Donc c'est un vrai sujet culturel, non pas pour la France, mais pour l'ensemble du monde, y compris musulman. Mais c'est un sujet sur lequel il faut s'armer. C'est une bataille culturelle, idéologique, politique. C'est une bataille qu'il faut gagner aussi par le discours religieux. Il y a des moyens de faire, il y a des exemples, il y a ce qu'ils ont fait, il y a des exemples de campagnes politiques. Cette bataille-là, il faut la mener. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut que l'État s'en occupe. Il faut que l'État s'en occupe dans un mouvement paradoxal. D'une certaine manière, il faut qu'il se désengage de la gestion du culte. Aujourd'hui, le bureau des cultes et le secrétaire fait le secrétariat général du CFCM. C'est inefficace, incompréhensible et par ailleurs illégal. On est dans un régime de séparation. L'autre séparation, c'est avec les pays d'origine. Il est complètement incompréhensible que l'Algérie, le Maroc et la Turquie continuent à financer des imams, au nom de quoi, je ne sais pas, certainement pas d'efficacité. Donc il faut qu'il y ait une déprise de l'État, comme je vous disais, une prise de pouvoir par les nouvelles générations françaises et musulmanes, et en même temps, l'État peut aider sur des aspects très opérationnels pour combattre non seulement les terroristes, mais ceux qui promeuvent une idéologie qui est absolument contraire aux valeurs de la République. Et pour ça, il a des moyens qui sont publics, il a aussi des moyens qui sont plus discrets, qui sont assez faciles à mobiliser. Mais plus je discute et j'échange avec les uns et les autres, plus je me rends compte qu'il n'y a pas de stratégie au sein de l'État. Il y a une stratégie de contre-terrorisme, il n'y a pas de stratégie de contre-insurrection idéologique. Voilà, merci.